Il est 10h sur France Culture, il est donc l'heure de retrouver les chemins de la philosophie avec vous, Adèle Manrède. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
C'est à vous de tester ce grand studio 106 devant les élèves qui sont avec vous pour cette préparation au baccalauréat.
Et oui, journée spéciale préparation au bac, enfin semaine spéciale préparation au bac sur France Culture. Vous aussi, Emmanuel, hein, tous les matins, vous corrigez des sujets en compagnie des professeurs et de leurs élèves.
Exactement.
Et on prend le flambeau, donc merci de nous l'avoir donné. Nous sommes en compagnie du professeur de philosophie Gilles Verviche et de ses élèves du lycée Paul-Émile Victor à Osny. Bonjour Gilles Verviche.
Bonjour.
Bonjour à vous, chers élèves.
Bonjour.
Et bonjour au proviseur du lycée Cédric Mouillin, qui est avec vous ici, vous tous ici en studio, qui a fait le déplacement. Je précise que se trouvent également dans la salle les élèves du lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine, les élèves du professeur Jean-Baptiste Chaumier, qui sera mon invité demain, mais qui sont venus assister à cette émission en direct et en public depuis le studio 106 de la maison de Radio France. Tout va bien Gilles Verviche?
Ça va.
Ça va un peu coincé.
Ça va un peu, ça va se déconcer.
Bah oui, c'est sûr. Vous avez 50 minutes, en tout cas.
Oui, tout à fait.
Pour nous expliquer un des plus beaux textes de philosophie qui soit, c'est un extrait du Rire de Bergson, que voici, sans plus attendre, lu par Georges Clès.
Pour tout dire, nous ne voyons pas les choses mêmes. Nous nous bornons le plus souvent à lire des étiquettes collées sur elles. Cette tendance, issue du besoin, s'est encore accentuée sous l'influence du langage. Car les mots, à l'exception des noms propres, désignent tous des genres. Le mot, qui ne note de la chose que sa fonction la plus commune et son aspect banal, s'insinue entre elle et nous, et en masquerait la forme à nos yeux, si cette forme ne se dissimulait déjà derrière les besoins qui ont créé le mot lui-même. Et ce ne sont pas seulement les objets extérieurs, ce sont aussi nos propres états d'âme qui se dérobent à nous dans ce qu'ils ont d'intime, de personnel, d'originalement vécu. Quand nous éprouvons de l'amour ou de la haine, quand nous nous sentons joyeux ou tristes, est-ce bien notre sentiment lui-même qui arrive à notre conscience avec les mille nuances fugitives et les mille résonances profondes qui en font quelque chose d'absolument nôtre? Nous serions alors tous romanciers, tous poètes, tous musiciens. Mais le plus souvent, nous n'apercevons de notre état d'âme que son déploiement extérieur. Nous ne saisissons de nos sentiments que leur aspect impersonnel, celui que le langage a pu noter une fois pour toutes parce qu'il est à peu près le même dans les mêmes conditions pour tous les hommes. Ainsi, jusque dans notre propre individu, l'individualité nous échappe. Nous nous mouvons parmi des généralités et des symboles.
Je précise que malheureusement, le jour du bac, Georges Clès ne sera pas présent dans la salle pour lire les textes. Non. Et c'est bien dommage, parce qu'entendre les textes de philosophie, j'imagine que vous les lisez parfois en cours, Gilles Verviche.
Je les fais lire aux élèves.
C'est ça, on les entend différemment qu'on ne les lit. Voilà. J'ai dit que le texte venait du Rire de Bergson. Pourtant, on l'a bien entendu, il ne s'agit pas beaucoup de rire dans ce texte.
C'est pas très marrant. Voilà. Enfin, c'est très poétique, c'est très lyrique. Ça me fait penser justement à rappeler aux élèves, puisqu'on est dans une préparation au bac, que l'une des consignes essentielles, c'est la connaissance de la doctrine de l'auteur n'est pas requise. Donc, en particulier en philosophie, il n'y a pas du tout à tenir compte du titre de l'œuvre. Voilà. Là, le titre, c'est le rire, mais on a bien vu que ça servait à rien pour expliquer le texte, et au contraire, ça pouvait mener à des contresens. Donc, contrairement à ce qui peut se passer en lettres, faut pas tenir compte du titre, ni même de l'auteur, en fait. Bon, à mon avis, il est pas inutile de savoir vaguement de quelle époque il est, parce que pour pouvoir situer dans l'histoire des sciences et des techniques, peut-être, et des connaissances, mais c'est à peu près tout.
Donc ça veut dire, si le jour du bac, le candidat, bien installé sur sa chaise, ouvre l'enveloppe de ses mains moites et tremblantes et voit ce texte, s'il ne connaît pas l'auteur, il ne connaît pas le titre du livre, il peut quand même prendre ce texte.
Ah oui, au contraire. D'ailleurs, ça peut, à la limite, tromper de trop connaître éventuellement un auteur. On va vouloir transférer des choses qu'on connaît sur un texte qui n'a rien à voir. Donc, vraiment, faut pas du tout s'inquiéter. Ce qui doit vous parler aux élèves, c'est plutôt le thème, le sujet. Est-ce que ça vous inspire? Alors, inspiré, on n'est pas des poètes, justement. Mmh. Est-ce que vous pensez avoir des billes par rapport au cours que vous avez fait pendant l'année pour traiter ce texte, mais il n'y a pas du tout à connaître l'auteur.
On va essayer de l'expliquer ensemble, ce texte. On l'a entendu une première fois, on entendra des extraits séparés tout au cours de l'émission pour bien commenter ce texte, puisqu'il s'agit de commenter aussi de manière linéaire ce qu'il s'y dit. Comment est-ce que vous le, vous le présentez en quelques phrases. Pourquoi ce texte est-il intéressant?
Eh ben, il est intéressant parce que, comme tout texte philosophique, il a une thèse paradoxale, hein, littéralement paradoxale, qui va contre le sens commun, c'est-à-dire ce que tout le monde pense sans réfléchir, même moi en fait, hein, quand on arrête de faire des cours de philo, on entend la sonnerie, et ben on se lève, hein, pour aller manger, par exemple. Il est paradoxal puisqu'il soutient une thèse qui a été dite en plein milieu, avec le langage, ce ne sont pas seulement les choses extérieures, mais ce sont aussi nos propres états d'âme qui nous échappent. Donc cette idée un peu étrange que le langage, qu'on définit comme un moyen d'expression et de communication, et donc vaguement un moyen de connaissance, serait un obstacle à la connaissance, à la fois du monde et de soi-même. Un obstacle, un écran. Alors j'aime à rappeler à mes élèves que aletheia, la vérité en grec se dit aletheia, ce qui signifie le non-voilement ou le dévoilement. Et là, il y aurait l'idée que le langage pose un voile sur les choses et sur nous-mêmes, ce qui paraît quand même étrange à bien des égards. Enfin, je prends ce texte parce que, comme beaucoup de textes philosophiques, il est paradoxal et c'est ça l'intérêt de la philosophie en fait. Hein, c'est d'avoir des thèses paradoxales. Le sens commun, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que, bah, éventuellement, d'abord, la connaissance des choses a aucun rapport avec le langage. Il y a pas besoin de parler ou d'avoir un mot pour voir. Enfin voilà, la table qui est là devant moi, a priori, j'ai pas besoin d'avoir du langage pour la connaître. Mm-hmm. Pour la voir, et puis pour la connaissance de soi-même, c'est à peu près la même chose. J'ai pas l'impression d'avoir besoin du langage pour savoir ce que je ressens à l'intérieur de moi. Enfin, si je suis en colère, si j'ai faim, a priori, je vois pas en quoi le langage pourrait m'aider, quoi. Voilà. Donc, au pire, enfin, au mieux, le langage ne sert à rien. Au mieux, il serait plutôt un moyen, puisque on communique entre nous. Enfin, voilà, le langage, c'est aussi là, on est en train de parler, par exemple. Le texte lui-même commence par « pour tout dire ». Pour tout dire, nous ne voyons pas. Enfin, je veux dire, Bergson est en train d'écrire un livre, d'utiliser des mots et un langage pour nous expliquer que le langage est un obstacle à la connaissance. Ça, c'est bizarre. C'est plus que paradoxal, c'est contradictoire. Bergson écrit pour dire qu'il ne faut pas écrire pour connaître. Alors.
Ça veut dire que ce texte-là serait familier des élèves qui ont travaillé sur la notion du langage pendant l'année?
Oui, alors c'est une précision à faire, c'est plutôt un texte pour les L, pour les littéraires, puisque le langage est au programme. Comme on l'a peut-être entendu, c'est aussi il est question aussi de la perception, qui est aussi plutôt un thème de L, mais aussi il traite du sujet, de la conscience, de l'art. Voilà, donc c'est vraiment...
Ça fait beaucoup.
Voilà, c'est typiquement un texte de bac, parce qu'il est très transversal en fait. Alors c'est vraiment centré sur le langage, effectivement, si vous avez, il faut en parler, voilà, il y a 3, 4, 5 notions principales. Il termine vraiment sur l'art, il parle de la perception beaucoup au début, c'est ce qui m'intéressait aussi, hein. Moi c'est un peu mon truc, hein, la perception, la métaphysique, hein, le côté Matrix, hein, nous ne voyons pas les choses mêmes, voilà, bref. Donc
peut-être c'est des références qui peuvent venir à l'élève en lisant le texte, hein, nous ne voyons pas les choses elles-mêmes et les étiquettes qu'on a posées sur elles, c'est la première phrase du texte. Là vous citez Matrix, c'est-à-dire que l'élève peut convoquer directement des références qui lui viennent, même si elles sont cinématographiques, télévisuelles ou autres.
Alors de plus en plus, voilà, en tout cas moi je m'en sers en cours comme outil pédagogique, alors ça peut être Matrix, ça peut être d'autres choses. Après effectivement tout dépend de du moi en général je m'en sers pour après amener à des références un peu plus classiques, hein. Bon alors vraiment classique de chez classique, l'allégorie de la caverne, hein, on passe de Matrix à l'allégorie de la caverne. Après c'est à l'élève de savoir s'il a assez de billes de puissance spéculative, comme dirait Hegel, que personne comprend, pour pouvoir exploiter cette référence. Je veux dire, citer Matrix pour citer Matrix. Si on en reste là pour dire « Ah, oh, voilà, le monde réel n'est pas celui qu'on voit », bon, ça va un peu vite, quoi.
Donc, comme toute illustration, exemple, il faut qu'il soit argumenté
il faut
et structuré.
Et tout dépend de l'usage qu'on va en faire. Voilà.
Est-ce que vous avez d'autres remarques préliminaires à faire avant que nous entrions dans l'explication du texte proprement dit?
Alors oui, deux remarques préliminaires que je voulais faire. Dans la consigne, il faut et il suffit que l'explication rende compte par la compréhension précise du texte du problème dont il est question. En général, les élèves, quand ils expliquent un texte, ils font...
Ça, c'est le petit libellé qu'on
voit
en dessous du texte.
C'est le petit libellé qu'on a en bas. Voilà, alors il commençait par la doctrine de l'auteur n'est pas requise, mais c'est important parce que les élèves font toujours de la paraphrase. En fait, ils savent jamais pourquoi on explique un texte en philosophie. Ils croient toujours que c'est une sorte de version, de traduction d'une langue étrangère. Et si, par exemple, ils comprennent tous les mots, qu'il n'y a pas assez de mots techniques, ils disent « je ne savais pas quoi dire, le texte était trop facile à comprendre ». Voilà, mais ce n'est pas ça la question.
Mais c'est une bonne question. Pourquoi commente-t-on un texte de philosophie ?
Voilà, bah, pourquoi ? Bah, c'est justement ça, les deux consignes. Voilà, la première, pourquoi on explique un texte de philosophie ? Parce qu'il y a un problème, parce qu'il traite, il soulève un problème philosophique. Quand bien même le texte est limpide à comprendre, ce qu'il faut savoir, c'est que les thèses qu'il soulève sont, elles, très problématiques. Donc, mon conseil, c'est, enfin, mon conseil méthodique, c'est d'abord de s'étonner, dès l'introduction, se demander, quand on a vu la thèse de Bergson qui dit « le langage est un obstacle à la connaissance », se demander pour qui, pourquoi cette thèse est-elle étonnante. Voilà, pour qui et pourquoi. Pour qui, en général, c'est sens commun, c'est n'importe qui, puisque c'est paradoxal. Et puis pourquoi, bah, demandez-vous ce que j'ai rappelé un peu tout à l'heure, parce qu'il nous semble que le langage est plutôt un moyen de connaissance qu'un obstacle, voilà. Et même à chaque paragraphe, peut-être, redemandez-vous, à chaque fois que vous voulez analyser un élément et définir un terme, demandez-vous pourquoi ça m'étonne, pourquoi je veux expliquer ça, qu'est-ce qui est étonnant, qu'est-ce qui va contre mes opinions courantes, voilà. Une fois qu'on a une raison, qu'on sait pourquoi on explique le texte, déjà on va faire moins de paraphrases. Voilà. Et puis la deuxième règle, c'est la compréhension précise du texte. Donc ne pas redire simplement ce qu'il y a dans le texte, mais essayer de, en particulier, petit truc, définir les termes clés. En plus, chez Bergson, c'est un régal, puisque il utilise beaucoup justement les métaphores dont il parle lui-même. Là-dedans, il parle de voilà, il parle d'étiquette, il parle de résonance, de symboles, etc. Donc il parle de genre, donc les termes centraux, il faut les définir, et ce qui permet, voilà. Donc si vous définissez les termes clés, si vous avez une raison d'expliquer le texte, moi je pense que vous aurez du mal à faire de la paraphrase et à ne pas avoir la moyenne, quoi, voilà. Mais il faut savoir pourquoi on explique un texte, quoi, voilà.
Savoir définir des termes et s'étonner.
S'étonner tout le temps, voilà, s'étonner tout le temps.
Alors on va commencer à s'étonner ensemble, Gilles Verviche. Voici les 5 premières lignes du texte que nous allons expliquer ensuite.
Pour tout dire, nous ne voyons pas les choses mêmes. Nous nous bornons le plus souvent à lire des étiquettes collées sur elles. Cette tendance, issue du besoin, s'est encore accentuée sous l'influence du langage. Car les mots, à l'exception des noms propres, désignent tous des genres. Le mot, qui ne note de la chose que sa fonction la plus commune et son aspect banal, s'insinue entre elle et nous, et en masquerait la forme à nos yeux, si cette forme ne se dissimulait déjà derrière les besoins qui ont créé le mot lui-même.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous vous préparons à l'épreuve de philosophie le jour du bac, aujourd'hui. Et cette semaine, aujourd'hui, en compagnie du professeur de philosophie Gilles Verviche, nous expliquons, et de ses élèves, qui sont présents donc au studio 106 de Radio France. Vous êtes toujours là ?
Oui !
Ils sont là, ça va. Nous expliquons un texte de Bergson, issu du rire, c'est le titre du livre de Bergson, mais le texte lui-même parle du langage. Et je dois dire, Gilles Verviche, que la première fois que j'ai lu ce texte, il y a un petit moment maintenant, mais quand même, je m'en souviens, je devais avoir l'âge de vos élèves, nous ne voyons pas les choses mêmes, nous nous bornons le plus souvent à lire des étiquettes collées sur elles, je crois que c'est pas exagéré de dire que ça a changé la conception que je me faisais peut-être de l'existence. En tout cas, de mon rapport au monde.
Eh ben, c'était le but, hein. Le philosophe est paradoxal. Il va contre ce qu'on a toujours pensé. Et donc,
Parce que c'est terrifiant. On voit pas les choses à même. On voit des étiquettes. Quelles sont ces étiquettes?
Voilà. Nous ne voyons pas les choses mêmes. Nous voyons des étiquettes. Bah, une étiquette. Comme je disais tout à l'heure, il faut définir les termes. Voilà. Alors, une étiquette, faut se demander. Il utilise des métaphores. C'est quoi une étiquette? Voilà. Alors, une étiquette, vous savez que il y a des mamies qui se sont ébouillantées en prenant leur café, vous voyez pas où je vais venir, hein. Qui se sont ébouillantées en prenant du café dans des gobelets en carton, et il a fallu, pour éviter les procès, d'écrire attention, c'est chaud. Voilà. Donc les étiquettes, qu'est-ce que c'est? Ce sont a priori donc des petits morceaux de papier qu'on colle sur les objets pour donner des informations qui a priori nous donnent les caractéristiques de l'objet. Voilà. Donc par exemple confiture de framboise ou je sais pas tout ce que vous voulez. Si vous allez dans des magasins de bricolage, vous aurez. Et donc on a l'impression que ces étiquettes nous donnent les caractéristiques de l'objet, mais en fait non, ce sont des caractéristiques utiles pour nous. Je parlais de mon gobelet de café, c'était attention, c'est chaud, voilà, ne pas avaler, ne pas donner à un enfant de moins de 36 mois, et puis vous savez, toutes les étiquettes, glucides, lipides, enfin je vais pas faire, voilà. Donc en fait, une étiquette, d'abord, ça a deux sens. Vous savez, quand on dit faut pas coller des étiquettes sur les gens, ça veut dire qu'on est dans le préjugé, donc dans quelque chose qui est plutôt faux. Et puis ensuite, on est dans des caractéristiques qui sont seulement utiles pour nous. Voilà, c'est-à-dire que ça ne nous révèle pas ce qu'est la chose en elle-même, sa nature, mais simplement des informations qui me sont utiles. Voilà. Et donc, ce qui est passionnant chez Bergson, c'est qu'il nous dit que quand nous voyons, c'est comme si on était en train de coller une étiquette. Alors ça, c'est personne comprend rien. Enfin,
c'est-à-dire qu'on ne voit jamais les choses qu'en fonction de leur intérêt pour nous.
Voilà. Alors de leur intérêt ou plutôt de leur utilité pour nous. Voilà. Alors ça, c'est bon. C'est je veux dire, Bergson, dans le fond, quand il dit ça, ça étonne. Mais il fait que redire ce que disent la plupart des philosophes depuis 2500 ans. Hein. Quand Platon dit que le monde sensible est une illusion, c'est vaguement ce qu'il veut nous dire. C'est vrai que j'ai l'impression que il y a qu'à ouvrir les yeux pour voir la table, pour voir le bleu, que le bleu, c'est une caractéristique de la table elle-même. Mmh. Or, on a tous appris d'abord que les sens sont plus ou moins relatifs, subjectifs. Alors vous souvenez peut-être qu'en 2015, il y avait toute une polémique sur une photo d'une robe qui était, on se demandait si elle était bleue ou dorée ou noire et blanche, voilà.
Chacun la voyait différemment.
Chacun la voyait différemment. Donc c'est déjà que nos sens, hein, ce que nous voyons n'est peut-être pas la nature de la chose, mais est relatif. Alors le débat, c'était de dire, c'est pas le nerf optique, c'est le cerveau, ça n'empêche que ce qui explique ce qu'on voit, c'est plutôt nous, c'est plutôt notre corps, nos organes sensoriels, plutôt que la chose elle-même. Ensuite, effectivement, ces sensations, alors est-ce que ça veut dire que les sens sont trompeurs, que c'est matrix? Non, parce que, comme le dit Bergson, c'est utile, c'est un besoin, cette tendance issue du besoin. Ça nous permet quand même de vivre, de survivre. Par exemple, si je mets ma main au feu, je me brûle, ça permet quand même de l'enlever. Voilà, donc dites-vous ça à chaque fois que vous avez très mal, la douleur est une information. Voilà, hein, si vous avez, voilà. Donc j'enlève ma main, si je ressentais pas la douleur, je ferais pas. C'est pareil, le soleil se lève. Ça peut paraître une illusion, puisqu'on nous a appris depuis la Renaissance que le soleil se lève pas, mais que c'est la Terre qui tourne autour. Mais dans notre vie, à nous, tout ce dont on a besoin de savoir, c'est que le soleil se lève et se couche, puisque finalement, notre horloge biologique pour dormir et vivre, elle est réglée sur l'alternance jour-nuit. Voilà.
Donc, non seulement les étiquettes, c'est-à-dire en partie les illusions composent notre rapport au monde, mais nous dit Bergson, qui va encore plus loin dans la phrase suivante, cette tendance issue du besoin s'est encore accentuée sous l'influence du langage, c'est-à-dire que le langage lui-même est en fait une série d'étiquettes que nous posons sur les choses pour pouvoir communiquer et penser.
Oui, alors c'est ça qui est très 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 étonnant, parce qu'on pourrait penser que le langage permet de sortir de ce subjectivisme ou de ce relativisme, et que quand on donne un... Là encore, c'est très étonnant, puisqu'il nous semble que d'abord le langage comme moyen de communication, c'est quand même ce qui permet de se communiquer, de se transmettre des informations et donc des connaissances. Là, on est encore une fois, on est en train de parler. Bergson lui-même dit pour tout dire. Donc nous sommes en train de parler comme il souligne, le langage résout pas tellement les choses, puisque les mots désignent des genres. Voilà, les mots désignent des genres. Finalement, le langage ne fait que traduire ce rapport que nous avons au monde. Je pense à au mot nature, par exemple.
Nature.
Le mot nature. Mmh. A priori, il n'y a rien de plus objectif que le mot nature. Vous entendez parler de la préserver la nature, etc. Donc ça nous paraît être un mot qui n'est pas du tout lié à nous, puisque la nature, par définition, c'est tout ce qui ne dépend pas de l'activité de l'homme. Voilà.
Oui, enfin, nous sommes aussi naturels. Il y a une part de nature en nous.
Oui, mais nous sommes aussi artificiels. Donc déjà, c'est un petit peu prétentieux, puisque c'est de dire que dans l'univers, vous avez deux choses qui fabriquent. Il y a la nature et l'homme. Donc voilà. Et effectivement, ce mot nature qui est censé être penser à la nature, à l'autre, il n'y a rien de plus anthropocentré, de plus relatif à l'homme, puisque la nature, c'est tout ce qui n'est pas l'homme. Imaginez un chien qui doit inventer un mot, le mot nature n'existerait pas, ça serait encore autre chose. Enfin voilà. La nature désigne tout ce qui n'est pas nous. Voilà. Et donc, il y a l'idée que les mots ne font que redoubler. Je crois que Nietzsche parle comme ça du serpent dont le son, par exemple, ne fait que refléter l'effet qu'il a pour nous, ce serpent. De la même manière, vous savez, alors il y a toujours un débat, que les Esquimaux, les Inuits ont
40 mots pour
40,
dire le mot neige.
50 mots pour dire le mot neige. Alors pourquoi? Manifestement, parce que effectivement, ils ont un rapport d'utilité plus fort que nous. Nous, on a trois mots pour la neige, hein. On a ou deux. On a neige, poudreuse. Et puis, enfin, voilà, vous savez, quand on va au ski, quoi, c'est tout, c'est l'utilité qu'on a.
Donc, ce que ça veut dire, c'est que le langage et les mots qui composent le langage, bien loin de nous d'accroître notre connaissance ou de renforcer notre rapport au monde, au contraire, fonctionnent comme des écrans et nous éloignent du monde lui-même.
Voilà. Et c'est ça qui est très paradoxal par rapport à l'histoire de la philosophie en général. Moi, je pensais un peu à Platon. Enfin, je pense à Platon en même temps. On est payé pour ça, mais voilà, chez Platon, il y a un monde des idées, et puis le mot, c'est ce qui permet de connaître l'essence des choses. Quand vous allez regarder dans le dictionnaire une définition, qu'est-ce que c'est qu'une définition ? Ce serait pour nous l'essence de la chose qu'on trouve dans des mots. Je commençais en vous rappelant l'étymologie de aletheia, par exemple, en vous disant l'aletheia, c'est le non-voilement, et c'est ce que signifie la vérité en grec. Est-ce que chacun d'entre nous ici, les élèves, et puis tous les Français qui aiment bien les dictionnaires, quand ils vont chercher dans le dictionnaire, quand ils trouvent l'étymologie, ils n'ont pas le sentiment de se rapprocher de la vérité en se demandant mais qui a créé, d'ailleurs certains des élèves qui sont là m'avaient demandé mais qui a inventé les premiers mots, d'où ça vient le grec, le latin, avant encore, on a l'impression qu'on dit au commencement était le verbe, on a quand même l'impression que découvrir le sens des mots c'est découvrir la vérité des choses, voilà. Et puis Bergson nous dit en fait pas du tout.
Et pourtant, il se sert de la langue pour dire cela. Donc, ça veut dire que le langage est peut-être défaillant, mais pas inutile.
Alors, voilà. On y reviendra à la fin du texte, mais vous savez qu'il évoque les métaphores. C'est vrai que c'est ça qui est très bien à lire chez Bergson. Alors, petite remarque d'ailleurs, oui. Méthodique. Si vous avez un texte avec beaucoup de métaphores et d'images, ça peut faire peur. Mais, j'ai envie de dire que c'est à la fois plus difficile parce que le sens est pas, tout de suite compréhensible, mais ça donne beaucoup plus de liberté de penser, parce qu'une métaphore, comme c'est une image qui a plusieurs sens, on peut chercher à l'interpréter, voilà. Et Bergson, quand il dit nous serions tous écrivains poètes, je me demande s'il pense pas à lui en fait quand il dit ça, parce que c'est vrai qu'il a une manière d'écrire, contrairement à un Descartes ou un Kant, hein, qui ont des, bon voilà, c'est un peu démonstration mort géométrique.
Il y a une poésie de la critique de la raison pure, Gilles Verviche.
Oui, il y a une poésie de la critique de la raison pure, je suis pas sûr, mais bon, enfin voilà, on peut aimer, mais en tout cas Bergson utilise des images qui sont toujours très belles. Il essaye de réinventer un peu le langage en fait dans sa philosophie.
Ce qui rend ces textes intéressants non seulement à lire mais à commenter. Cette première partie se termine avec la phrase « Le mot qui ne note de la chose que sa fonction la plus commune et son aspect banal s'insinue entre elle et nous ». On a compris pourquoi dorénavant, le mot est donc cet écran entre nous et le monde. « Et en masquerait la forme à nos yeux si cette forme ne se dissimulait déjà derrière les besoins qui ont créé le mot lui-même ». À l'issue de ce premier temps, est-ce qu'on fait on résume la thèse qui a été énoncée avant de passer à la deuxième partie ?
Si vous voulez, on peut résumer assez simplement que on va essayer de résumer assez simplement que le langage est donc un obstacle à la connaissance et même à la perception du monde. C'est ça, c'est de comprendre que la perception du monde n'est pas immédiate. Quand je perçois le monde, je perçois pas simplement par rapport avec mes sens. Déjà, donc, cette perception sensible, elle est relative à mes besoins. Et cette perception relative est redoublée par le langage qui lui-même traduit cette relation toute intéressée, utilitaire, pragmatique au monde. Et c'est vrai que si j'arrive à percevoir une table, ou si j'arrive à percevoir des chaises, c'est parce que je dispose du mot chaise et table. En fait, ce qui est intéressant aussi à comprendre, c'est que notre perception du monde n'est pas si immédiate que ça. Enfin, je veux dire, par exemple, si vous y connaissez pas du tout en botanique comme moi, vous allez regarder un jardin, vous allez voir des arbres. Moi, quand je regarde une forêt, je vois des arbres. Voilà, je vois rien d'autre. Et si vous y connaissez en botanique, vous allez peut-être voir des chênes, des hêtres, ou je sais pas, mais j'y connais rien, moi. Et voilà. Donc, voilà. Donc, le langage est un obstacle à la perception du monde extérieur.
À partir de là, on peut...
À partir de la transition.
Oui, alors dites-nous.
À partir de la transition, puisqu'on se dit, si donc le langage ne fait que traduire nos besoins, notre rapport utilitaire au monde, alors au moins, il doit bien traduire nos propres sentiments ou nous-mêmes. Enfin, on vient de dire qu'en fait, le langage nous cachait le monde parce que on s'intéressait trop à nous-mêmes dans le langage. Donc, est-ce que le langage serait pas au moins un bon moyen d'expression ? Il y a un peu, en fait, dans ce texte, la double fonction du langage qui est mise en concurrence. Le langage, c'est un moyen d'expression et de communication. Communication d'information aux autres, expression de ses propres sentiments. Voilà. Apparemment, comme moyen de communication, c'est pas évident. mais donc comme moyen d'expression de mes propres sentiments, est-ce que c'est quand même pas le moyen idéal? Voilà, c'est un peu ce qu'on peut se demander.
Et voici la réponse de Bergson.
Et ce ne sont pas seulement les objets extérieurs, ce sont aussi nos propres états d'âme qui se dérobent à nous dans ce qu'ils ont d'intime, de personnel, d'originalement vécu. Quand nous éprouvons de l'amour ou de la haine, quand nous nous sentons joyeux ou tristes, est-ce bien notre sentiment lui-même qui arrive à notre conscience avec les mille nuances fugitives et les mille résonances profondes qui en font quelque chose d'absolument nôtre? Nous serions alors tous romanciers, tous poètes, tous musiciens. Mais le plus souvent, nous n'apercevons de notre état d'âme que son déploiement extérieur. Nous ne saisissons de nos sentiments que leur aspect impersonnel, celui que le langage a pu noter une fois pour toutes parce qu'il est à peu près le même dans les mêmes conditions pour tous les hommes. Ainsi, jusque dans notre propre individu, l'individualité nous échappe. Nous nous mouvons parmi des généralités et des symboles.
Avons-nous besoin du langage pour connaître et notre conscience passe-t-elle par l'utilisation de certains mots? Telles sont les questions posées par Bergson dans ce texte que nous expliquons pour vous sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie, un extrait du Rire de Bergson en compagnie du professeur de philosophie Gilles Verviche et de ses élèves du lycée Paul-Émile Victor à Ony. Nous préparons le bac philo et alors dans ce texte-là, la question est assez effrayante. Vous disiez, il faut arriver à s'étonner, à savoir quelle est la question que pose le texte. Se demander le rôle du langage dans notre accès au monde, mais aussi dans notre accès à nous-mêmes, a quelque chose de vertigineux, parce que si la réponse à la question de dire que non, le langage nous éloigne de nous-mêmes, alors ça veut dire que peut-être nous n'avons jamais accès à nous-mêmes.
Oui, c'est plus ou moins. Alors, la thèse de Bergson, c'est pas que nous ne nous accédons jamais à nous-mêmes, c'est que accéder à soi-même est difficile, voire impossible. Voilà. Alors, c'est l'expression que j'utilise beaucoup. C'est ce qu'il dit à la fin quand il parle des romanciers, des poètes. On va en reparler si on fait une explication linéaire. Mais d'après lui, en tout cas, ça demande un effort. Voilà, de se connaître soi-même, c'est pas évident. D'ailleurs, c'est le principe qu'on trouve sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes. Connais-toi toi-même. Si c'était si évident que ça, on n'en ferait pas un devoir. Ça a l'air pas évident, quoi. Alors, là aussi, c'est étonnant, c'est vertigineux, c'est anti-cartésien, parce que Descartes, c'est « je pense donc je suis ». Pour Descartes, rien n'est plus évident et immédiat que la connaissance de soi-même. Quand il dit « je pense donc je suis », c'est le sentiment qu'on a tous, d'ailleurs, je pense. Quel sentiment? Bon, les fameux élèves qui sont là devant nous, en général, quand je leur pose une question, ils disent, je vois bien ce que je pense, mais je pourrais pas vous l'expliquer. Voilà. Donc, il y a l'idée que eux, dans l'intériorité, justement, de leur pensée, ils savent exactement ce qu'ils pensent, ou du moins ce qu'ils ressentent. Sans le dire en conclusion, Bergson parle plus des sentiments que des idées. C'est sans doute la limite de sa thèse. Enfin, pas la limite, mais ce qui permet de redonner un peu de légitimité au langage. Mais il y a l'idée, si vous voulez, qu'on a bien besoin du langage pour accéder aux états d'âme, aux sentiments des autres. Après tout, on n'a pas d'autres moyens. Là, quand je vous regarde, faut que je regarde la tête que vous faites et vous-même, celle que je fais, ou d'autres moyens d'expression pour savoir ce que je ressens. En revanche, j'ai le sentiment que pour savoir moi ce que je ressens, j'ai besoin de rien du tout, puisque je suis quand même à l'intérieur de moi-même, dans ma tête, et que je sais immédiatement, à la limite, mes sentiments, je les sens plus dans le ventre ou dans le cœur que dans la tête ou dans le langage, quoi. Donc, l'idée que le langage sera un obstacle à la connaissance de ses propres sentiments, c'est très étonnant, je dirais.
Et à partir de cet étonnement, vous en faites quoi?
Ah bah, à partir de cet étonnement, il faut justifier l'idée que soutient Bergson, que finalement on se rend compte que peut-être qu'on a besoin quand même des mots pour connaître mais y compris nos sentiments d'ailleurs.
Bergson a introduit un nouveau terme dans cette deuxième partie, c'est celui de conscience.
Oui, voilà. de celui de conscience. Alors j'avais pensé, dans la série Westworld, je sais pas si vous la regardez vous-même.
Tout à fait. Hein. J'ai pas encore commencé la saison 2, mais alors voilà. Expliquez-nous quelle est cette série pour ceux qui ne la connaissent pas.
La série Westworld, c'est assez passionnant. Passionnant. C'est encore l'histoire de l'intelligence artificielle. Mmh. Donc c'est un parc d'attractions avec des robots. Alors hyper évolué, c'est-à-dire que de l'extérieur, il n'y a aucune différence entre un être humain et un robot, et qui sont là pour divertir les visiteurs qui viennent vivre une expérience dans le Far West. Et évidemment, comme tous ces problèmes d'intelligence artificielle, comme on le trouve dans Blade Runner et dans la nouvelle, je crois que c'est les robots rêvent-ils de moutons électriques, la question toujours de l'intelligence artificielle, c'est de savoir si elle peut accéder ou pas à la conscience. Et là, il y a une thèse qui émerge dans la série, c'est que ce serait par le langage, justement, que viendrait la conscience.
Alors, on va écouter un extrait de cette série. Est-ce que je m'adresse à vos élèves et aux élèves qui sont là? Vous connaissez cette série? Westworld? Vous la regardez? Bon, oui et non. Donc, on va écouter un extrait, puis vous nous direz comment s'en servir le jour de l'épreuve. Voilà.
Nos hôtes ont réussi le test de Turing à la fin de la première année. Mais cela n'a pas suffi à Arnold. Il ne se satisfaisait pas d'un semblant d'intelligence ou d'esprit. Il voulait atteindre le sommet. Il cherchait à créer la conscience. Il voyait cela comme une pyramide. Regardez. Mémoire, improvisation, souci de son intérêt.
Et au sommet ?
Il n'y arriva jamais. Mais il avait deviné ce qui pouvait s'y trouver. Il s'appuyait sur une théorie de la conscience qu'on appelle l'esprit bicaméral.
L'hypothèse que l'homme primitif croyait que ses pensées étaient des voies divines ? Je croyais qu'elle avait été discréditée.
En tant que théorie, servant à cerner l'esprit humain peut-être, mais pas en tant que schéma directeur, pour créer une intelligence artificielle. Arnold avait élaboré une version des facultés cognitives des autres dans laquelle ils entendaient leur programmation comme si elle était un monologue intérieur, dans l'espoir qu'avec le temps, leur propre voix prendrait le relais. Une manière d'amorcer la conscience.
Arnold est celui qui a inventé le parc d'attractions Westworld, peuplé d'androïdes, et qui, on le découvre à l'occasion de cet extrait, qui arrive à la 10e épisode de la première saison, qu'en réalité son but était de reproduire un être humain et surtout de reproduire la conscience, qui est l'occasion pour le personnage de réfléchir sur les modalités d'apparition de la conscience et de ce que c'est que la conscience. On dirait que l'extrait est calibré pour servir d'exemple dans une dissertation de philosophie, Gilles Verbich.
Oui, c'est pour ça que j'ai pensé à le mettre, effectivement. On dirait que, alors l'acteur, c'est Anthony Hopkins, hein, qui joue très bien doublé, etc., qui l'a lu Bergson, effectivement. C'est toujours la différence qu'on voit entre l'intelligence artificielle et pas artificielle, voire pour certains entre les animaux et les hommes, c'est toujours le pas de la conscience, quoi. On veut bien parler d'intelligence quand il s'agit de calculer, justement, pour calculer des moyens qui permettent d'atteindre des fins. On parlait de besoin tout à l'heure, mais qu'est-ce qui produit la conscience? Alors là, c'est quand même le mystère. Et dans cette thèse, effectivement, il rappelle que le moyen qu'ils avaient trouvé, c'était le langage, c'est-à-dire faire que le robot ait le sentiment de se parler à lui-même. Ce serait par le langage que la conscience naît.
Mais voilà. Qu'est-ce que c'est la conscience? Comment vous définissez la conscience?
Eh ben, la conscience, c'est la connaissance qu'on a de sa propre existence, par exemple.
C'est de la connaissance. Tandis que j'ai conscience.
De soi-même. Ouais. De soi-même. Par exemple, alors, deux définitions pour le bac. La définition que je rappelle, la conscience, c'est la connaissance qu'a l'homme de ses pensées, de ses sentiments et de ses actes. Donc une connaissance toujours, c'est une connaissance tournée vers soi-même. Voilà, hein, le texte de Bergson distingue dans un premier temps la connaissance tournée vers les choses extérieures et la conscience qui serait une connaissance tournée vers soi-même. Alors, ces sentiments, c'est là je lève le bras, je sais que je suis en train de lever le bras, et puis à la fin la conscience de soi, c'est-à-dire le fait d'être présent ici et comprendre que cette conscience est fondamentale. C'est-à-dire en ce moment, si j'ai conscience justement qu'il y a cette fameuse table qui est devant moi, qu'il y a Adèle Von Redt devant moi et ce public, c'est parce que j'ai d'abord conscience de ma propre existence. Voilà. Si je... pour cette table, le monde n'existe pas parce que elle-même n'a pas d'existence pour elle-même. Elle sait pas qu'elle est là. Mmh. Moi, en revanche, hein, c'est aussi ce que disait Berkeley, être, c'est être perçu, voilà. Donc, la conscience, c'est fondamental, c'est ce qui distingue l'être humain de toute autre forme d'intelligence. Et, Descartes, je le disais tout à l'heure, pense que cette conscience de soi, de connaître ses propres sentiments, peut être immédiate. Voilà. Comme tout le monde, je vous ai dit, ça se passe plutôt dans le ventre, dans le cœur. Et en fait, lui-même, dans les méditations métaphysiques, il dit « je suis, j'existe, cette proposition est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. » Il s'en rend pas compte, mais il est en train d'utiliser le langage. Il dit « je suis, j'existe, cette proposition est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. » Donc il nous répète pendant toutes les méditations que la conscience de soi c'est immédiat, et en fait il est en train de nous dire que s'il n'y avait pas le langage, il pourrait pas prendre conscience de lui-même.
Mais il a jamais dit que c'était immédiat. Il sait très bien qu'il est en train de se servir du langage. Quand il dit « je suis, j'existe », il dit pas qu'il a conscience de la qu'il connaît qui il est, mais qu'il peut prouver par le langage qu'il est en train d'exister. C'est un récit.
Oui, mais il peut
dire que la conscience n'est rien sans le langage. Il a la même thèse.
Je pense qu'il le dit pas comme ça. Enfin, il utilise le langage pour le montrer, mais il répète assez que pour lui, la conscience de soi est ce qu'il appelle une évidence, par définition. Enfin, moi, voilà, une évidence. Qu'est-ce que c'est? C'est une vérité qui apparaît immédiatement comme vraie. Il y a quand même l'idée dans l'évidence de la conscience de soi d'immédiateté qui aurait donc pas besoin de médiation, en particulier du langage, me semble-t-il.
Pour Descartes en tout cas, puisque lui-même aussi écrit ce texte et réfléchit à la médiation du langage.
Mais d'ailleurs, c'est toujours la difficulté, aussi bien pour Bergson que pour Descartes que pour Rousseau. À chaque fois que quelqu'un essaye de penser le langage, l'origine du langage, le pourquoi du langage, ce qui est toujours impossible, c'est qu'en fait on ne peut pas sortir du langage pour essayer de penser à un monde sans le langage. Quand on dit que notre rapport au monde est médiatisé par le langage ou le rapport à soi-même, comment montrer les choses autrement, quoi. Mais pour la connaissance de ses propres sentiments, il y a aussi l'idée, j'en parlais aussi avec les élèves, la question de savoir pourquoi on fait un journal intime, par exemple. Bergson évoque l'intimité, nous avons notre intimité, et on pourrait penser encore une fois que pour avoir une connaissance intime de soi-même, on n'a pas forcément besoin du langage. Dans un procès, quand on demande au jury son intime conviction, il s'agit plutôt de quelque chose intérieur qu'on a du mal à communiquer aux autres. Et alors, pourtant, il y a des gens qui écrivent des journaux intimes, donc manifestement, il y a besoin quelquefois de mots, peut-être pour se connaître soi-même, quoi.
Bergson, de manière assez inattendue, dans la deuxième partie de ce texte que nous avons entendu, glisse que sans cet écran, en fait, que produit le langage entre nous et le monde, entre nous et nous-mêmes, eh bien alors, nous serions tous romanciers, tous poètes, tous musiciens. Ce qui est une manière de définir le rôle de l'artiste ici.
Alors exactement, et c'est pour ça que le texte est assez intéressant, pas seulement pour des terminales littéraires, mais pour tous, surtout que l'art, alors je vous préviens, il y a à peu près 27 notions en L, et l'art tombe tous les ans dans au moins une des filières. Donc s'il y a un petit conseil à donner, c'est de réviser le chapitre sur l'art si vous l'avez fait en cours. Manifestement, il n'y a pas toujours une imagination débordante pour les sujets. L'art tombe tous les ans dans au moins une des filières. Donc voilà. Et donc, effectivement, il a une thèse très étonnante sur l'art et par rapport à ce texte, puisque l'art, qu'est-ce que c'est ? Bon, évidemment, c'est la production, c'est un savoir-faire pour produire un objet, une œuvre d'art dont on peut se demander quel est son but. Mais disons que le sens commun, nous-mêmes, nous aurions un peu l'idée que l'art sert plutôt à s'évader de la réalité, aller dans l'imaginaire. Enfin, on a des générations en ce moment qui ont peut-être été biberonnées à Harry Potter ou des choses comme ça, ou Le Seigneur des Anneaux. Enfin, on pense que l'art, les œuvres d'art, c'est plutôt pour s'évader de la réalité. Et là, il y a l'idée, parce que Bergson le dit ailleurs dans Le Rire. Alors, je suis désolé, j'ai dit qu'il fallait pas connaître l'auteur ni l'œuvre, mais...
Mais c'est aussi votre rôle de professeur, mais que nous apprendre ce qu'il y a dans ce texte.
Voilà, mon rôle de professeur, c'est d'en savoir un peu plus que les élèves, donc éventuellement, de le dire, qui dit que finalement, l'art est une vision directe, plus directe de la réalité. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'art n'est pas une évasion de la réalité, mais un rapport plus direct. Il dit, si nous pouvions, par le langage, nous connaître, nous serions alors tous artistes, poètes, romanciers. Alors, pourquoi ? Pour plein de raisons. D'abord, effectivement, parce que l'art est peut-être le regard de l'artiste est plus direct sur la réalité. Je crois que Picasso disait à une de ses modèles, à force de vous regarder, je ne vous vois plus. Voilà. Et ce qu'il essayait de peindre dans ses tableaux si bizarres, cubistes, bleus ou pas, comme Guernica, qui ressemble pas à la réalité, il essayait de peindre la réalité au-delà des apparences. Voilà. Donc l'art en général nous donne une perception du monde. Pourquoi ? Parce que justement, elle n'est pas intéressée, elle n'est pas pratique. C'est le fameux regard esthétique. Le regard esthétique, c'est de regarder les choses simplement dans leur forme. Par exemple, je vais regarder cette chaise, non plus en me demandant comment je vais pouvoir m'asseoir, mais simplement regarder sa forme. Mmh. Voilà. Avec les élèves, on essaye de montrer, je remonte Marcel Duchamp, par exemple, hein, le fameux pelle à neige, porte-bouteille, voilà, en leur disant, on arrête de se demander à quoi sert l'objet, puis on essaye de regarder simplement la forme. Voilà, c'est une forme de regard désintéressé. Et puis, si on pense plus particulièrement aux musiciens, peut-être que c'est une manière d'exprimer des sentiments qui correspondent plus à leur flux, quoi. J'aime bien évoquer la notion de flou artistique. Vous savez, c'est une critique. On dit, on cultive un flou artistique. Mais peut-être que nos sentiments sont assez flous et que le langage qui découpe de manière un peu trop stricte la réalité correspond mal à l'expression du flou artistique de nos sentiments. Et puis, oui.
Voilà. On peut aller même plus loin avec Bergson lorsqu'il dit que nous serions alors tous romanciers, tous poètes, tous musiciens. On peut y voir aussi une manière de célébrer ce qui nous éloigne du monde, cet écran que produit le langage, même la conscience de nous-mêmes, parce que finalement c'est ça qui permet à l'art d'exister. Et en fait, c'était exactement cette pensée que Bergson lui-même avait formulée. Je ne sais pas si vous connaissez cet extrait, vous proposez Westworld, moi je vous en propose un autre et je m'adresse aussi à vos élèves. Vous allez entendre, et peu de gens l'ont entendu, parce qu'on ne sait pas que cette archive existe, la voix de Bergson.
Oula.
C'était en 1936, c'est le seul enregistrement sonore de la voix de Bergson, et figurez-vous qu'il dit exactement la même chose que l'idée que nous sommes en train de commenter.
Quel est l'objet de l'art ? Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, et si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature.
C'est bouleversant d'entendre Bergson le dire.
C'est bouleversant. C'est pas facile à entendre. Il y a un petit côté Général de Gaulle, mais... c'est l'époque, mais
merci pour la comparaison pour lui. Mais 1936, c'est le son de radio. Donc si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature.
Oui, c'est exactement ce qu'on est en train d'expliquer. Mais là, si l'art était inutile, l'art ne peut pas être inutile en même temps, puisque nous avons aussi besoin, c'est pas seulement une critique, nous avons aussi besoin de ce rapport pratique, utilitaire aux choses. Nietzsche parlait d'une erreur utile, croire que nos sensations sont une connaissance vraie, immédiate du monde. Donc, il faut bien vivre quand même, hein. Il faut bien manger, il faut bien... Je parlais de la main au-dessus du feu, il faut bien survivre, mais effectivement, si nous avions besoin ni de dormir, ni de boire, ni de manger, si nous n'avions pas de besoin, alors peut-être que nous aurions ce regard esthétique distancié avec les choses. C'est effectivement intéressant de se rendre compte que cet artiste qui a l'air de représenter la réalité de manière plus distanciée que les autres, enfin, on a l'impression qu'effectivement, il est toujours un peu parti dans son monde, mais voilà, il y a l'idée... je pense à un exemple que j'utilise quelquefois avec mes élèves, à l'impressionnisme par exemple, qui pourrait sembler être une représentation de la réalité, donc pas la réalité elle-même, alors qu'en fait il est effectivement en contact à la fois avec cette réalité extérieure, Monet par exemple quand il peint ses 20 cathédrales, à la fois avec la réalité extérieure et à la fois avec la résonance qu'elle a à l'intérieur de lui-même, et il essaye de l'exprimer un peu autrement. Son but, c'est pas de rentrer dans les cathédrales pour aller prier. Il va se mettre devant la cathédrale, ou pas d'ailleurs. Hein. Des fois, les paysagistes peignent dans leur atelier. C'est ça qui est assez étrange. Hein. C'est que il y a pas besoin de voir, ce que je disais un peu avec Picasso, il y a pas besoin de voir la réalité pour la représenter de manière plus réelle. Quoi. Les choses elles-mêmes. Voilà, représenter les choses elles-mêmes et pas notre rapport au monde.
La fin du texte est assez sombre, Gilles Verwisch, puisqu'il conclut avec l'idée que notre individualité nous échappe et que nous nous mouvons parmi des généralités et des symboles. C'est la dernière phrase. Le texte indique que la phrase continue, et on sait que le livre va continuer puisque ça n'en est qu'un extrait. L'élève doit à la fois prendre acte de ce constat peut-être sombre et en proposer un autre, ou être d'accord avec Bergson. Comment faut-il procéder ?
Alors moi, j'ai tendance à dire en général qu'il faut pas se demander si on est d'accord ou pas avec Bergson. Comme je dis aux élèves, si vous êtes pas d'accord avec Bergson, c'est vous qui avez tort. Enfin, je veux dire.
Ah bon.
Voilà.
Hein. Voilà qui développe l'esprit critique.
Puisque non, mais l'intérêt, c'est de se dire quel nouveau regard justement le texte m'a apporté. C'est ça l'intérêt.
D'accord. Comment donc on conclut sur l'apport du texte.
Sur l'apport par rapport à ce que moi je pensais. On parlait tout à l'heure, on commençait sur la notion de paradoxe. L'intérêt quand même, c'est de s'être étonné et soi-même d'avoir découvert des choses. On n'est pas sur un débat entre deux personnes qui auraient des opinions différentes, mais sur un point de vue qu'on n'avait jamais soi-même envisagé. Mmh. Donc qu'est-ce que ça m'a apporté à moi? Voilà. Alors quand il dit nous nous mouvons parmi des généralités et des symboles, je sais pas si c'est très négatif. Ou pessimiste, je veux dire, c'est un fait. Pour vivre, il faut bien avoir des signaux. Là, il parle de symboles. On en retient que nous avons un rapport au monde qui n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, immédiat, que notre perception du monde, notre rapport à la réalité n'est pas immédiat, qu'il y a ces généralités des mots, ces symboles qui sont dans les mots et à la fois dans notre perception du monde. Quand il parle de symboles, à mon avis, il parle dans ce cas-là plutôt de symboles, pas qu'on trouve dans l'art, mais plutôt des symboles du style signaux, quoi, les signes, les signaux qui nous permettent, par exemple, un feu rouge, un feu vert, panneau indicateur, tant qu'on est dans un rapport utile. Mais il n'y a pas à être pessimiste, puisque finalement, la solution, il nous l'a donnée au milieu, peut-être, enfin, juste avant, il y a peut-être d'autres formes de pensée, d'autres formes d'activité qui nous permettent de nous détacher de notre rapport utilitaire au monde. Après tout, rien. Quand il dit, alors nous serions tous romanciers, poètes, musicien, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que nous serions pas tous poètes?
Il ajoute, mais le plus souvent, nous n'apercevons de notre état d'âme que son déploiement extérieur.
Même le poète et le musicien, il faut bien qu'ils vivent, et à certaines occasions, nous pouvons apercevoir dans le rire. Lui, il dit que c'est la nature qui a doué certains êtres pour cette capacité. Mmh. Voilà. Mais pourquoi pas chacun exploiter? Et puis, comme je le disais aussi tout à l'heure, je l'ai évoqué, Bergson, dans le fond, ne parle que des états d'âme et des sentiments dans ce texte, quand même. C'est-à-dire, effectivement, pour les sentiments, on peut imaginer que la musique ou le poème ou l'art en général soit une manière de l'exprimer plus adéquate. Maintenant, il parle pas véritablement des idées abstraites, rationnelles. Et là, on peut se demander si le langage aurait quand même pas un rôle un peu plus constructif que dans le rapport aux sentiments. Voilà, je ferais quand même la distinction entre les sentiments, les états d'âme, et puis les idées qu'on pourrait appeler plutôt des états d'esprit, quoi. Il se centre quand même sur les sentiments. Et ce qu'on a appris, si je peux rajouter un mot.
Je vous en prie. Voilà. Il faut qu'on conclue après.
C'était ce que j'avais dit un peu. Il me semble que, mine de rien, il y a ce conflit entre les deux fonctions du langage. C'est pour ça que ce texte sur le langage est intéressant. Fonction d'expression et de communication. Quand il dit que nous nous mouvons à travers des généralités, il faut bien avoir des noms commun à nous pour pouvoir communiquer. Il faut bien qu'on utilise les mêmes mots pour se comprendre. Donc pour communiquer, pour se transmettre des informations, il faut qu'on parle le même langage. Le problème, c'est que quand on veut se servir du langage pour exprimer son individualité, ses propres sentiments, cette fonction d'expression, comme je disais une fois aux élèves, en fait, plus on s'exprime, moins on communique, plus on communique, moins on s'exprime, parce que j'ai du mal à m'exprimer, c'est-à-dire à manifester ce qui m'est propre, et du coup à comprendre mes propres sentiments, à force d'utiliser des généralités et des mots qui sont les mêmes pour tous. Voilà, donc je pense qu'il y a deux fonctions. On pourrait croire que l'expression sert à la communication. Pourquoi j'exprime mes sentiments? Pourquoi je dis je t'aime, j'ai faim, pour que le communiquer à l'autre? En fait, il y a l'idée que les deux vont pas toujours ensemble, quoi.
Si lorsqu'on exprime quelque chose, on essaie de communiquer.
Oui, mais le problème, c'est qu'en voulant le communiquer, il en perd de son individualité.
Quelle serait votre conclusion alors?
Eh bien, celle que je viens de dire, c'est-à-dire que
les deux fonctions du langage.
Voilà. Moi sur les deux fonctions. Alors ma conclusion, c'est plutôt Alors, les histoires de conclusion ouverture, ça, j'ai jamais trop cru, personnellement, de reposer une autre question. Faut peut-être quand même conclure sur le texte. Encore une fois, il me semble pas que la conclusion consiste à dire je suis d'accord ou pas, ou Bergson avait raison, ou comme Bergson a si bien dit, Mais peut-être cette idée que Bergson ne parle, comme je l'ai dit, parle essentiellement des sentiments, voilà, et que pour ce qui est des idées, de la pensée et de la connaissance, une connaissance plus rationnelle et abstraite, peut-être que sans langage, voilà. Là, je pense à Platon, Rousseau, même si c'est pas terrible de citer des auteurs dans les conclusions, mais donc on peut le dire en tant qu'idée générale, quoi. Mmh. Platon, Rousseau, qui vous dit que sans le discours, on n'aurait pas d'idée abstraite. Voilà, quand on pense à un triangle, tant qu'on n'a pas de mots, on peut se représenter l'image d'un triangle dans l'esprit, mais que pour avoir un triangle qui représenterait tous les triangles quels qu'ils soient, on a besoin des mots. Il n'y a pas d'idée générale sans discours, ça c'est ce que dit Rousseau, Platon serait assez d'accord, donc voilà. Donc pour passer à une forme de pensée abstraite, peut-être que là, le langage peut apparaître comme un moyen.
Ce sera donc le mot de la fin. On va dans un instant donner la parole à vos élèves, avoir leurs sentiments, comme dirait Bergson, ou comme direz vous-même à propos du sentiment. Peut-être, avant de leur donner la parole, déjà vous pouvez féliciter votre professeur. C'est pas facile, 50 c'est minutes facile. Devant un micro, devant ses élèves, devant son proviseur, avec une régie technique, etc. Ça fait beaucoup avec la voix de Bergson qui vient s'immiscer dans la conversation.
Et les objections d'Adèle.
Voilà, c'est ça qui est là pour ça. Un dernier son avant de donner la parole à vos élèves, ce sera Géraldine Mosna-Savoy qui la donnera, puisqu'on a convoqué une série télévisée, une archive, une chanson. On se demande où est la conscience, où est notre esprit finalement. Bah, ça donne une chanson, Where's My Mind.
Stop.
La grande question, c'est est-ce que les élèves en terminale aujourd'hui écoutent encore les Pixies ? Ça vous dit quelque chose ou pas ? Bon, je ne sais pas ce que j'entends, j'aimerais entendre oui, donc j'imagine que c'est le cas. En tout cas, merci à vous d'être là. Je rappelle que vous êtes du lycée Paul-Émile-Victor à Ony, avec votre professeur Gilles Verviche qui vient de plancher pour vous. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, les paroles sont désormais à vous, chers élèves, et c'est dans le cadre du journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoy.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Alors vous nous avez rejoints dans le studio 106 de la Maison de Radio France pour un journal un peu spécial, où donc vous allez donner la parole aux élèves de notre invité Gilles Verviche qui vient de
plancher. À trois élèves de Gilles Verviche, donc Romane Buré, Adrien Mazzoni, tous les deux vous êtes en terminale littéraire, et Anna Bensedik qui est en terminale scientifique. Alors première question, je me tourne vers vous Romane, est-ce que ce texte, Le rire de Bergson, cet extrait, est-ce qu'il vous a intéressé, est-ce que vous l'auriez choisi le jour de l'épreuve ?
Alors moi personnellement, je sais que du coup je suis en terminale littéraire, donc c'est un texte qui aurait pu potentiellement tomber le jour du bac. Et moi je pense que oui, il aurait pu me plaire parce que le langage c'est un sujet auquel on est confronté tous les jours dans notre quotidien. Et donc c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui là recouvre plein de thèmes et de notions différentes. Donc oui, potentiellement j'aurais pu le prendre.
Et en plus vous l'auriez vu en cours avec votre professeur, donc ça facilite un petit peu les choses.
Ça facilite au niveau des références et des thèmes à aborder, oui.
Anna, vous êtes en terminale scientifique, donc le langage, ce n'est pas une notion au programme de terminale scientifique. Néanmoins, ce texte, comment vous l'auriez traité avec votre parcours en terminale scientifique? Est-ce que vous l'auriez traité de cette manière-là? Vous avez quand même la notion d'art au programme. Est-ce que c'est par là que vous seriez entré dans le texte?
Alors oui, nous on a la notion d'art, on a aussi la notion de conscience. Donc si j'étais en L, j'aurais pu le prendre. Du coup, je suis un peu déçue, mais bon, j'accepte mon choix, j'assume. Mais oui, parce que je trouve que c'est quand même un sujet actuel, intemporel quand même, dans la mesure où on a besoin de se connaître soi avec le langage, mais aussi d'avoir un rapport avec une vie en société agréable ou du moins efficace, on va dire. Donc ouais, j'aurais pu le prendre et j'aurais essayé de traiter avec ce que j'ai, donc la conscience et l'art.
Et vous, Adrien, au tout début, votre professeur a dit quand même, quand on est face à une explication de texte, il faut un petit peu voir si on a quelques billes quand même pour traiter le texte. Alors, pas forcément connaître ni l'auteur, ni toute son œuvre. Mais est-ce que vous l'auriez aussi pris? Est-ce que vous sentez que vous avez des billes pour traiter ce sujet-là, ce texte-là, le jour du bac?
En fait, c'est très large comme question parce que autant je pensais être capable de philosopher un petit peu, autant c'est vraiment compliqué parce que c'est un texte qui met en exergue beaucoup de concepts et du coup j'aurais très peur de faire hors sujet en parlant parce qu'on est facilement débordé.
Quand là, à l'écoute de l'explication de votre professeur, qu'est-ce que vous auriez fait que lui n'a pas fait et vous auriez peut-être eu peur de vous tromper? Alors je ne dis pas que vous auriez fait mieux ou pas, l'idée n'est pas de noter votre professeur, mais comment vous l'auriez traité ou pris ce texte?
Bien, en fait, j'aurais essayé de... si c'était ce texte-là qu'on a déjà étudié en cours, j'aurais essayé de me rappeler du cours, mais j'aurais pu apporter quelque chose qui m'a pas été inculqué, c'est-à-dire que c'est vraiment très précis comme type de réflexion, et au final, je ferais mieux de réviser que d'essayer de broder.
Les exemples de Westworld, de Philip K. Dick, Matrix ont été convoqués. Quel exemple, vous serez peut-être venu en tête? Là, je me tourne vers vous trois. Vous pouvez passer le micro à Adrien, Roman ou Anna. Est-ce qu'il y a un exemple en particulier que vous auriez convoqué de cinéma ou de série ou de littérature?
En plus de ceux qui ont été cités ou
Autres, différents. Vous regardez peut-être pas forcément les mêmes choses que votre professeur.
Si, parce que quand même, c'est... Aussi, on a un professeur qui est quand même actuel, qui prend des exemples le plus actuel possible.
C'est un beau compliment.
Vous avez payé vos élèves, Gilles Verviche ou...
Oui, j'ai pris vraiment ceux qui étaient fans. Hein. Enfin,
non, mais c'est pour essayer de nous faire comprendre mieux des trucs qui nous font pas... Enfin, je sais pas. Oui, j'aurais pris Westworld, en tout cas, parce que je regarde.
Moi, je sais que la série dont on a parlé là, je la regardais pas du tout, donc mais c'est intéressant de découvrir des nouvelles choses. Mais après Matrix, bon, on l'a vu en cours aussi, donc je trouve que c'est intéressant d'allier la pop culture à des sujets philosophiques parce que ça permet de faire des liens. Et pour nous, c'est plus facile de comprendre et on arrive mieux à visualiser du coup après les questions et les problèmes qu'on se pose philosophiques à propos de la pop culture à partir de ça.
De manière générale, est-ce que vous prendriez l'explication de texte? En fait, est-ce que c'est vraiment l'exercice sur lequel vous vous sentez le plus à l'aise en terminale, qui est en fait, comme le disait votre professeur au tout début, un petit peu compliqué parce qu'on a tendance à paraphraser ou alors à tout de suite prendre le contre-pied, à dire « je ne suis pas d'accord avec ce que dit Bergson ». Est-ce que vous l'auriez pris, du coup, cette explication de texte, l'exercice de l'explication de texte? Allez-y, Anna, après Adrien.
En
15 secondes.
Justement, comme disait Adrien tout à l'heure, leur sujet est très très risqué en fait. Et moi, je ne prendrai pas le risque. Je préfère de base la dissertation. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Adrien ?
Alors justement, la critique de texte, ça permet d'avoir justement un texte. Et comme on fait comme on critique ligne par ligne, ça permet d'avoir un plan pas préfet, mais plutôt clair. On n'a pas à improviser quelque chose, c'est là.
Donc plutôt rassurant.
Voilà.
Merci beaucoup à tous les trois et bon courage pour le bac.
Merci à vous Géraldine, merci à vous tous d'avoir été présents aujourd'hui, les élèves du lycée Paul-Émile Victor ainsi que ceux du lycée Pasteur de Neuilly qui reviendront demain pour assister à l'émission en compagnie de leurs professeurs.
Oh,
Et un grand merci à Maud Markiewicz qui a préparé cette émission avec Marianne Chassor, David Pargamin, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Milena Eilig qui réalise cette semaine. À la technique aujourd'hui, c'était Guillaume Ledu, Nicolas Slimani et Jean-Benoît Tétu. On se retrouve demain pour la suite de cette série spéciale Bac Philo, en compagnie précisément du professeur de philosophie Jean-Baptiste Chaumier, du lycée Pasteur de Neuilly, qui viendra avec ses élèves se demander s'il faut avoir peur des machines, un sujet actuel qui fera aussi l'objet d'un corrigé de dissertation, bien évidemment. Pour réécouter cette émission, ainsi que toutes celles consacrées au Bac Philo cette semaine, c'est très simple, rendez-vous sur France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter toutes les émissions en ligne, mais aussi les télécharger, les podcaster, afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez, jusqu'à la veille du jour du bac. On prépare le bac sur France Culture toute la journée et toute la semaine. À 14h, entendez-vous l'écho avec Maëlys Bessery. 15h, la compagnie des auteurs qui se réfléchira sur la princesse de Montpensier. Et à 16h, la méthode scientifique vous préparera à l'épreuve scientifique au bac en physique chimie. Mais on se retrouve demain à 10h donc. Mais il est 11h, restez à l'écoute sur France Culture, c'est l'heure de Culture Monde.